Graines de curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste chez Elle à Bienne, en Suisse. Dans cette deuxième saison très spéciale, Graines de curieuse vous raconte des histoires. L'espace d'un podcast, je fais don de récits, de slams et même de nouvelles. À tous ceux qui œuvrent pour notre santé, notre sécurité et notre confort, puissiez-vous en être remerciés. Et bien sûr, à tous ceux qui doivent rester chez eux. Je débute cette série à l'heure où chacun de nous doit veiller à se protéger et à protéger autrui. En adoptant toutes les mesures préconisées par notre nation, s'il vous plaît, respectez-les pour que chacun puisse encore vivre longtemps sa propre histoire. Aujourd'hui, nous retrouvons les 5 enquêteurs de la fanfiction inspirée de la série FBI Portée Disparue. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode dans le podcast précédent, je vous conseille de le faire avant de passer à cette deuxième partie. Les 5 agents spéciaux sont à la recherche du petit Tobias Simmons. Le bébé, âgé de 9 mois, a disparu du domicile de sa mère, Kate Simmons, à New York. On soupçonne un enlèvement. La disparition a été constatée à 7h le matin et il est déjà 10h. Le chef, Jack Malone, coordonne l'enquête depuis le bureau. Vivian Johnson reste auprès de la mère au cas où elle recevrait un coup de fil du ravisseur. Samantha Spade vient d'interroger le portier et trouve son comportement bizarre. Quant à l'agent Danny Taylor, il se charge d'interroger les voisins. Disparu depuis 3h. Martin Fitzgerald épluche les comptes bancaires, les cartes de crédit, les relevés téléphoniques de Kate Simmons et de Stéphane Fortin quand Samantha arrive au bureau. Il lui confie que Kate semble vivre chichement. Toutefois, le père de l'enfant lui versait 1 000 $ chaque début de mois depuis un trimestre. Martin décide d'en faire part à Jack Malone. Samantha Spade consulte les fichiers. Gino Trovatore est un émigré italien. Il vit à Little Italy avec sa femme et sa fille. Quelques PV pour excès de vitesse pour ce qui est des antécédents. Écarquillant les yeux, elle voit apparaître un autre Gino Trovatore, junior, âgé de 22 ans, connu pour consommation et trafic de cocaïne. À tout hasard, elle imprime la photographie de son permis de conduire et la laisse sur son bureau. Mrs. Simmons Mayer vit à Chesapeake Bay, en Virginie. Samantha décide de la contacter par téléphone et elle cherche son numéro sur Internet. Elle découvre ainsi que Mrs. Eleanor Simmons possède un site Internet intitulé sosinternationaladoption.com. Une petite visite s'impose. Au 350 Ouest, l'agent Danny Taylor tire les sonnettes dans le but de recueillir les témoignages des voisins. Mais il laisse plutôt des cartes de visite aux portes, car les locataires semblent tous s'être absentés. Au numéro 44B, pourtant, quelqu'un met un moment à déverrouiller les multiples serrures de sa porte. Après s'être fait répéter plusieurs fois à qui elle a affaire, une dame âgée laisse entrer Danny. Celui-ci ne peut que constater qu'en plus de sa surdité, Mrs. Gerda Müller n'y voit quasiment plus à sa façon de loucher sur le badge du FBI. Toutefois, la vieille dame prend un air de confidence pour lui dire que la paroi de sa chambre à coucher jouxte celle d'une chambre de l'appartement voisin. Elle y perçoit parfois des pleurs, des babilles de jeunes enfants et des mélodies chantées par une femme lui parviennent. Cependant, la voisine de Kate Simmons n'a rien entendu d'inhabituel cette nuit ou ce matin. Disparue depuis 4h. La maison de Stéphane Fortin se trouve dans la banlieue de Philadelphie, dans un quartier résidentiel. L'homme qui ouvre à Jack Malone ressemble à ce qu'il est, un businessman en costume, portant lunettes à monture fine et Rolex au poignet. La trentaine, soigné, svelte, parlant vite. Bien que l'agent spécial ne l'ait pas averti de son arrivée, il est clair que l'homme sait de quoi il retourne. Il déclare d'emblée qu'il ne sait rien, n'ayant plus de contact autre que téléphonique avec Kate depuis plusieurs mois, le dernier datant du matin même, vers 7h30. Elle lui a demandé s'il savait quelque chose au sujet de son fils disparu. Interrogé sur Kate Simmons, Stéphane Fortin raconte qu'il l'a rencontrée 3 ans plus tôt. Son besoin d'être protégé l'avait immédiatement attiré. Au début de leur liaison, elle avait émis le souhait d'avoir un enfant. Durant 2 ans, ils avaient essayé, sans succès. Stéphane Fortin avoue qu'il s'était alors senti plus procréateur que partenaire. Enfin, Kate lui avait annoncé sa grossesse. Stéphane s'était alors vu mettre de côté. Rien n'existait plus que cet enfant à venir. Kate dépensant tout son salaire pour aménager la chambre d'enfant, ne parlant plus que de cela, participant à des cours de puériculture, à des cours de soins d'urgence au nouveau-né, puis passant tout son temps avec des mamans en devenir alors que sa grossesse débutait. Kate consultait souvent un psychiatre, pensant être incapable d'élever un enfant. Stéphane Fortin avait en outre découvert qu'elle était mythomane et qu'elle s'inventait des passés mystérieux, des ex dont il avait pu démontrer l'inexistence. Excédé, il avait mis fin à leur relation tout en promettant de subvenir aux besoins de leur enfant. Son stage terminé, il avait décidé de rentrer à Philadelphie et avait abandonné Kate à Paris. Il avait appris par la suite, non sans étonnement, qu'elle était allée vivre à New York avec Tobias. Il avait voulu leur rendre visite, mais Kate s'y était opposée. Stéphane Fortin précise qu'il n'avait pas cherché à contrecarrer la décision de la mère, d'autant plus qu'il ne se sentait pas la fibre paternelle. De derrière sa tasse de café, Jack Malone étudie Stéphane Fortin, avant de lui demander de s'expliquer sur les sommes versées à Kate, ainsi que sur les appels qu'elle a effectués avant chaque transaction. Stéphane Fortin se lève et se place face à une fenêtre. Ses épaules s'affaissent, il reconnaît que Kate Simmons le fait chanter. Elle l'a contacté à fin septembre 2005, ayant lu un article élogieux du New York Times qui révélait sa nomination probable en tant que PDG de la banque qu'il emploie. Elle lui a demandé de lui verser $1000 chaque premier du mois s'il ne voulait pas qu'elle informe le conseil d'administration de ses manquements en tant que père, ce qui aurait mis en péril une telle situation de confiance. Il s'est donc incliné, priant pour qu'elle n'en demande pas plus, tentant toutefois de lui offrir le mariage. Kate avait refusé. Elle avait prétexté qu'elle n'aurait que faire d'un revenant, préférant un revenu régulier. Il n'avait pas insisté, pensant s'en être tiré à bon compte. Jack Malone fronce ses sourcils broussailleux et ses lèvres minces se serrent. Il annonce à Stéphane Fortin qu'il ferait mieux de le suivre au bureau, car l'argent serait un motif plausible pour faire disparaître l'enfant. Disparu depuis 4h30. Au domicile de Kate Simmons, un technicien des écoutes téléphoniques se tient prêt et Vivian Johnson va dans la cuisine préparer du café. Alors qu'elle saisit un mug sur le plan de travail, le téléphone sonne. Vivian retourne prestement dans le living room. Elle et le technicien coiffent leur casque, puis font signe à Kate de répondre. Celle-ci a été briefée par Vivian Johnson. Elle sait qu'elle doit faire durer l'appel. Toutefois, il s'agit d'une fausse alerte. Vivian comprend qu'il provient d'un certain docteur Russell, désirant avancer leur rendez-vous du lendemain, au vu de ce qui s'est passé. Vivian fait signe à Kate de refuser. Celle-ci déclare qu'elle viendra le lendemain, comme prévu, et raccroche. Disparu depuis 5 heures. Danny Taylor dégote la boutique de Kate Simmons dans Greenwich Village entre un café et une galerie de peinture. Muni de la clé remise par la locataire, il entre dans ce qui se trouve être un atelier de couture flanqué d'une petite pièce dans le fond, servant apparemment de bureau, où trônent un ordinateur et une boîte à chaussures. La boîte contient une trentaine de fiches révélant à l'agent spécial une clientèle essentiellement féminine et huppée, provenant de l'Upper West Side. Danny se demande si l'une de ses riches clientes peut être suffisamment en mal d'enfant pour organiser un enlèvement. Il décide d'emmener le fichier au bureau pour le passer au crible avec Martin Fitzgerald. Dans l'appartement 43B, la sonnerie du téléphone retentit à nouveau. Vivian court frapper à la porte des toilettes où se trouve Kate. Comme celle-ci n'ouvre pas la porte, Vivian l'enfonce d'un coup de pied et trouve Kate en train de sniffer une ligne de coke. Elle la saisit par le bras et la tire jusqu'au téléphone. Kate réussit à saisir le combiné avant la fin des sonneries. L'interlocuteur se fait bref. Il annonce qu'il a l'enfant, que celui-ci est bien traité, mais que cela changera s'il ne reçoit pas $50 000 en petites coupures usagées déposées dans un sac en papier à Grand Central Station. Il la rappellera pour lui fixer l'endroit exact. Kate Simmons tente de répliquer qu'elle ne pourra réunir l'argent en si peu de temps. Mais l'inconnu a déjà raccroché. Le technicien indique qu'il n'a pas eu le temps de situer l'appel. Tout en fusillant la mère du regard, Vivian Johnson fait part des derniers événements à Jack Malone. Il se trouve dans l'hélicoptère qui le ramène à New York avec Stéphane Fortin. Jack fait simplement remarquer à Vivian que l'inconnu est bien peu exigeant, un peu comme Kate avec son chantage. Puis il demande à Vivian d'emmener la mère au bureau, après y avoir fait dévier ses lignes de téléphone et de portable. Informé au sujet de la rançon, Stéphane Fortin appelle sa banque pour faire virer cette somme sur le compte de Kate. Danny Taylor remet le carton de fiches client à Martin avec un sourire taquin. « 30 conquêtes potentielles, mon vieux, on est gâté !» Son portable retentit et il reprend son visage sérieux. Ayant mis fin à la conversation, il revient à grands pas vers Martin pour lui dire qu'un témoin a vu un homme portant un paquet sortir par une fenêtre du 43B et descendre par l'escalier de secours vers 7h45 ce matin-là. Cet habitant de l'immeuble n'en a pas fait part à la police, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un soupirant, désirant passer outre le contrôle du portier. Ayant trouvé la carte de Danny à sa porte et s'étant renseigné, le locataire a compris l'importance de ce fait. L'agent spécial l'invite à venir au bureau pour dresser un portrait robot de l'inconnu. Disparu depuis 6 heures. Samantha Spade est installée sur la terrasse du cottage de Mrs. Eleanor Simmons, grand-mère du petit disparu. La femme, très maquillée, à la silhouette de jeune fille, ne paraît pas autrement émue. Elle juge sa fille incapable de s'occuper d'un enfant, trop attirée par les paillettes et le succès, ajoutant que l'enfant n'aurait pas été enlevé si Kate avait daigné le lui confier de temps à autre. À 62 ans, d'après sa fiche de sécurité sociale, se remémore Samantha, la grand-mère ne demande qu'à s'occuper d'un bébé, car son compagnon, âgé de 36 ans, rêve d'être père. L'enquêtrice a de quoi se méfier de cet étrange couple qui dirige une agence d'adoption. Martin Fitzgerald lui a donné une information qui peut les mettre sur la piste juste avant qu'elle n'arrive chez Mrs. Simmons. La photographie de Tobias Simmons a été identifiée sur le site sosinternationaladoption.com. L'agente spéciale oriente habilement la conversation vers l'adoption et se fait montrer les photographies des enfants visibles sur le site. Désignant Tobias qu'elle a remarqué sur ces photos, elle demande à Mrs. Eleanor Simmons de lui en parler. Celle-ci lui montre les données indiquant qu'il s'agit du petit Richard Timothy Alderson, né le 15 avril 2005 à Tempe, Floride. Il est le fils d'une adolescente de 16 ans, morte dans un accident de la route. On y lit aussi qu'il est orphelin, le père étant inconnu. L'enfant a été placé auprès d'une famille d'accueil à Norfolk, voisine de Chesapeake Bay. Samantha confronte la grand-mère à l'étrange nouvelle. Il s'agirait de son propre petit-fils. Mrs. Eleanor Simmons tombe des nues. Elle ne comprend pas comment sa fille est devenue la mère de l'enfant qui figure dans ses dossiers. Disparu depuis 6h30. Jack Malone conduit le père Stéphane Fortin dans la salle d'interrogatoire et lui demande de patienter. Puis il se rend auprès de Martin. Selon ce dernier, Kate Simmons n'a pas de casier. « Blanche comme neige », ironise-t-il. Jack Malone se demande qui peut lui fournir sa dope et comment elle la finance. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un courriel à info@grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots ou sur la page Facebook dédiée à ce podcast. Et de mettre des étoiles sur iTunes si vous l'appréciez. Prenez soin de vous et de nous et soyez heureux.